un heideggerien, vous êtes un jeune heideggerien, vous avez déjà écrit une thèse sur Heidegger et la critique de la notion de valeur qui a été préfacée par Martin Heidegger et qui va bientôt paraître. Vous avez connu Martin Heidegger dans les dernières années de sa vie et vous avez décidé de consacrer votre existence philosophique, du moins dans ses débuts, à Martin Heidegger. Et j'aimerais que vous nous parliez d'une chose que nos invités jusqu'à présent n'ont pas tellement traitée, c'est la question du temps chez Heidegger, le rapport entre la question du temps et la question de la métaphysique.
La question du temps est en effet au cœur de la question de la métaphysique chez Heidegger. Ce n'est pas du tout une question extérieure, ce n'est pas du tout une question adventice, c'est véritablement une question centrale dans la mesure où l'histoire de l'être, l'histoire de la métaphysique occidentale, est l'énigme du temps lui-même, en quelque sorte. Pour comprendre ce lien intime entre les deux questions, il faut sans doute d'abord faire référence à la question directrice de la métaphysique. La métaphysique est la philosophie qui questionne sur les temps comme tels et en totalité. Cette interrogation, cependant, ainsi que la réponse qu'elle appelle, ainsi que la démarche qu'elle exige, n'ont été possibles qu'à la faveur d'une compréhension déterminée de l'être, ou encore du sens de l'être. Le problème, c'est que les Grecs n'ont pas aperçu et n'ont pas problématisé l'horizon de cette compréhension, pas plus que leurs successeurs dans la philosophie occidentale. S'interrogeant en effet sur l'être de l'étang, la métaphysique occidentale, dès le début, a pointé son regard, en quelque sorte, au-delà de lui, en grec, méta veut dire par-delà, vers, au-delà de l'étang en totalité, vers son fondement. Le mot métaphysique veut dire que la pensée envisage la physis sous le rapport de son fondement. Au livre de la métaphysique, Aristote dit que la science suprême, la prote philosophia, est la science qui porte sur les premiers principes et les premières causes, c'est-à-dire sur les premiers fondements. Cela veut dire que l'être est compris immédiatement comme fondement de la totalité de l'étang, cette compréhension implicite dominant par la suite toute la philosophie occidentale. Marx, par exemple, est métaphysicien, dans la mesure où il fonde la totalité du réel sur la praxis matérielle et historique de l'homme. Nietzsche est aussi métaphysicien aux yeux de Heidegger, et ce en dépit de son antiplatonisme, dans la mesure où il rend compte de tout ce qui est, à partir de ce qu'il appelle l'essence intime de l'être, à savoir la volonté de puissance. Donc, il s'est toujours agi de dévoiler le fondement de l'étang, c'est-à-dire ce à partir de quoi ou ce par quoi l'étang en totalité peut être. Être ce qu'il est et de la manière dont il est. Or, le rapport avec la question du temps apparaît immédiatement si l'on considère que ce fondement de la possibilité de la physis est simultanément saisi comme la présence constante de l'étang. Cette détermination originaire de l'être comme présence est capitale pour Heidegger. Déjà, le mot « étang » signale quelque chose. Ce mot est le participe présent du verbe « être ». L'étang présent participe à l'être ou participe de l'être. De quelle manière? La philosophie occidentale répond « l'étang participe de la présence constante ». L'étang a part à l'être, a part à la présence, en tant qu'il est fondé par la présence elle-même, qui est l'être. C'est ainsi que, dans le livre Zeta de la métaphysique, Aristote dit que la question Titoon, qu'est-ce que l'étang, équivaut à la question qu'est-ce que l'outia, qu'est-ce que la présence constante, qui fonde la possibilité de la présence de l'étang. De même, Platon disait, dans le livre 6 de la République, que les philosophes sont amoureux du savoir qui porte sur l'outia, à savoir sur cette présence idéétique qui, à ses yeux, n'est pas sujette aux vicissitudes de la génération et de la corruption. Mais, du fait qu'il est saisi ainsi comme présence, l'être est compris dans l'horizon du temps, parce qu'il est compris en rapport à un mode du temps.
Qui est le présent.
Un mode déterminé du temps qui est le présent. Pour la métaphysique, l'être, c'est donc la présence constante, au fondement de toute présence. Enfin, ce qui est à remarquer, c'est que toute la métaphysique semble céder à l'appel du repos, de la halte définitive, semble céder à l'envie de la constance. Cela n'est pas seulement vrai pour l'idéa suprasensible de Platon, à laquelle on pense immédiatement. L'esprit absolu de Hegel, par exemple, ou la praxis matérielle de Marx, ne sont pas moins des fondements constants, même s'ils impliquent une dialectique ou un mouvement temporel intrinsèque. Nietzsche est peut-être le philosophe du devenir, mais comme il s'agit toujours du devenir de la volonté, c'est-à-dire d'un devenir constant, il reste métaphysicien.
Alors en quoi Heidegger rompt-il par rapport à cela ?
Eh bien, Heidegger rompt avec l'ontologie du devenir, dans la mesure précisément où il pense que cette détermination de l'être comme devenir constant se situe dans l'horizon du temps lui-même. Du fait qu'elle se crispe, enfin, qu'elle s'omnubile, hein, sur le dévoilement présent de l'être, la métaphysique oublie à chaque fois le temps d'où provient ce dévoilement.
C'est pour ça que Hegel dit que le présent a un droit absolu.
C'est ça. La métaphysique réduit l'être au présent, pas dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, réduit l'être à l'immédiatement présent, à ce qui est immédiatement advenu, et en même temps, elle réduit l'être au don immédiat qui lui est fait. Le mot présent ici doit être retenu dans les deux sens. La métaphysique réduit l'inéluctable, l'inépuisable éclaircie de l'être. L'inépuisable avenir de l'être, si vous voulez, à la présence immédiate, à la présence immédiatement cédée. C'est-à-dire, avec Heidegger, dans Zeit und Sein, dans Temps et Être,
une conférence qu'il a faite bien après l'être et le temps.
C'est ça.
Et qui reprend le titre qu'aurait dû porter la seconde partie non publiée de Sein und Zeit.
Exactement. Dans cette conférence, Heidegger réinterprète en quelque sorte le sens traditionnel du mot présence, du mot utia, ou du moins dévoile son sens implicite. Présence veut dire alors approche de l'être, advenu de l'être vers l'homme. Alors, la métaphysique ne voit pas que cette présence, que ce déploiement de l'être, n'advient à chaque fois qu'à la faveur d'un jeu temporel complexe où se retient, où se ménage l'avenir de l'être. Autrement dit, elle ne voit pas que l'être se dévoile en se voilant, qu'il advient à chaque époque en retenant son avenir, qu'il ne s'approche de l'homme, en quelque sorte, qu'en se tenant à distance, qu'en ménageant ses advenus, proches ou lointaines. Mais le problème, mais l'énigme, c'est que cet aveuglement n'est pas le fait de l'homme. C'est que cet aveuglement tient au temps lui-même. Quand Heidegger dit par exemple que le monde moderne est l'ère de l'absurdité, est l'ère de la parfaite absence de sens, c'est ce phénomène qu'il a en vue. Ainsi pour Heidegger, l'époque moderne est-elle le comble de l'errance. L'errance, ce n'est pas du tout la perte du sens, c'est bien plutôt la consécration d'un sens unique. C'est bien plutôt la consécration illimitée d'un sens déterminé dans l'oubli de sa limite temporelle. Enfin, c'est ça qui est l'oubli du temps. Thank you.
Heidegger, c'est la méditation de l'être de l'homme qui est le Dasein, et de l'être en général ou pour lui-même. C'est la méditation de la poésie qui s'installe dans l'éclaircie de l'être et constitue ainsi la dimension du sacré. C'est la méditation du temps comme constitutif de l'être lui-même. Si Heidegger était tout cela et rien que cela, c'en serait assez sans doute pour que chacun en tire profit pour son propre compte et établisse, comme on dit, le lien de cette pensée avec la vie concrète. Mais Heidegger a commencé à établir lui-même ce lien avec cette fameuse question de la technique qui est une description et un jugement du monde moderne. À vrai dire, Heidegger ne fait pas concurrence à Marx sur le terrain de l'analyse du monde technique moderne. Mais sa critique, car il s'agit véritablement d'une critique, rejoint, et pour une bonne part elle les a inspirées, les critiques contemporaines du machinisme, de ce qu'on a appelé la société de consommation, la société où tout, objet et personne, est lancé dans la circulation d'un gigantesque marché universel où objet et personne perdent leur sens. Les objets sous l'empire de la technique deviennent les cibles d'une production qui n'a plus rien à voir avec la poésie sous ce recueil l'être, même lorsque ce sont des objets naturels. Le dévoilement qui régit la technique moderne, dit Heidegger, ne se déploie pas en une production au sens de la poésie. Le dévoilement qui régit la technique moderne est une provocation par laquelle la nature est mise en demeure de livrer une énergie qui puisse, comme telle, être extraite et accumulée. Mais ne peut-on en dire autant du vieux moulin à vent ? Non. Ses ailes tournent bien au vent et sont livrées directement à son souffle, mais si le moulin à vent met à notre disposition l'énergie de l'air en mouvement, ce n'est pas pour l'accumuler. Une centrale électrique est mise en place dans le Rhin. Elle le somme de livrer sa pression hydraulique qui somme à son tour les turbines de tourner. Ce mouvement fait tourner la machine dont le mécanisme produit le courant électrique pour lequel la centrale régionale et son réseau sont commis aux fins de transmission. Dans le domaine de ces conséquences, s'enchaînant l'une l'autre à partir de la mise en place de l'énergie électrique, le fleuve du Rhin apparaît lui aussi comme quelque chose de commis. La centrale n'est pas construite dans le courant du Rhin comme le vieux pont de bois qui, depuis des siècles, unit une rive à l'autre, c'est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale. Ce qu'il est aujourd'hui comme fleuve, à savoir fournisseur de pression hydraulique, il l'est de par l'essence de la centrale. Afin de voir et de mesurer, ne fût-ce que de loin, l'élément monstrueux qui domine ici, arrêtons-nous un instant sur l'opposition qui apparaît entre les deux intitulés « Le Rhin », muré dans l'usine d'énergie, et « Le Rhin », titre de cette œuvre d'art, qui est un hymne de Hölderlin. Mais le Rhin, répondra-t-on, demeure de toute façon le fleuve du paysage, soit. Mais comment le demeure-t-il ? Pas autrement que comme un objet pour lequel on passe une commande, l'objet d'une visite organisée par une agence de voyage, laquelle a constitué là-bas une industrie des vacances. Ainsi risque d'être perdu, dans cette volonté de produire pour produire, qui n'est pas une volonté de puissance au sens de Nietzsche, qui aurait une certaine allure, mais une volonté de volonté, comme dit Heidegger, qui s'engendre monstrueusement elle-même, risque d'être perdu ce sens de la production d'être, ou poiesis, qui assure à l'homme, être qui a le sens de l'être, sa dignité, c'est-à-dire son maintien dans son essence, c'est-à-dire encore, en définitive, la jouissance à laquelle il est destiné. Ainsi, l'analyse par Heidegger de la technique moderne équivaut à une condamnation, non pas de la technique en tant que telle, mais de la technique en tant que le monde moderne la place au poste de commandement. Et elle équivaut donc à une condamnation du monde moderne. C'est de cela, de ce sens qu'a et qu'aura la pensée de Heidegger dans l'avenir pour nous autres, les hommes vivant dans le monde moderne de la technique, que débattent nos invités Michel Haar, Roger Munier, Henri Biraud et Kostas Axelos.